Pauline Pucciano, La cité hantée, partie 3, chapitre 6, dernière transe. Irène marchait à pas pressés, son bébé étroitement serré contre elle, dans l'air froid de l'aube. Il n'y avait personne dans la cité à cette heure, et elle regardait avec effarement les grandeurs de la ville, les perspectives géométriques de ce fameux albâtre, presque phosphorescent à cette heure blafarde, les hauts bâtiments qui paraissaient défier le ciel et la pesanteur, les œuvres omniprésentes de l'art humain qui, éclatant partout, obstruaient la nature. On ne voyait pas l'horizon depuis les rues d'albâtre, on ne voyait pas la montagne, ni les couleurs changeantes du ciel, ni la course régulière du soleil. L'obscurité n'existait ici pas plus que la pleine lumière, car la ville artificielle vivait dans le crépuscule. À l'ombre des palais et des terrasses couvertes, lorsque le jour était trop clair, à la lueur des flambeaux et de vasques où brûlait un feu perpétuel, lorsque tombait la nuit. Irène n'aimait pas cette cité, et regrettait parfois que Daïla dût y vivre et lui appartenir. Elle ne s'y était jamais accoutumée, et regrettait éternellement la modeste austérité de la cité monastère, nichée dans la montagne comme l'humble rejeton d'une déesse, son silence, sa monotonie. Elle se sentait ici coupée de sa propre nature. Après un quart d'heure de marche, elle arriva à l'ancien canal frontière, aujourd'hui comblé et arboré, et ne put s'empêcher de trouver étrange qu'on fit pousser des arbres dans une ligne droite. La fraîcheur matinale avait piqué de rouge le nez de Daïla, et Irène pressa le pas. Elles avaient longuement discuté avec Aélénor pour tenter de comprendre les capacités spirituelles d'un esprit humain capable de se projeter hors de son corps, et il leur était apparu à toutes les deux que Sornar ne pouvait jouir, hors de son corps, des mêmes pouvoirs que lorsqu'il était incarné, la projection externe devant consommer la plus grande partie de son énergie. Ainsi, s'il s'incarnait dans l'iguane, il ne pouvait par exemple augmenter sa force par l'esprit. S'il s'incarnait dans un homme, il ne pouvait utiliser le verbe comme un homme l'aurait fait. Cette idée les avait d'abord un peu rassurés, puis elles s'étaient demandé ce qu'ils pouvaient connaître de la ville qu'ils hantaient, et il leur parut encore une fois impossible que Sornar eût une conscience claire d'absolument tout ce qui se passait dans le vaste corps qu'il habitait. Il était probable que, de la même manière que le cerveau n'avait pas une conscience permanente de chacun des organes du corps, mais se concentrait soit sur ceux qu'il désirait mouvoir, soit sur ceux qui lui envoyaient des informations particulières, Sornar ne pouvait avoir pleinement conscience que des points névralgiques de la ville, ceux où se tissaient les événements, ou bien des points qu'il guettait de lui-même. Ainsi, il était tout à fait possible de lui cacher quelque chose ou quelqu'un, non pas par la discrétion physique, mais par l'enfouissement dans la multitude et l'anonymat. C'est ainsi qu'elles avaient décidé, d'un commun accord, de confier les enfants à l'être le plus faible, le plus obscur et le plus excentré de la cité, au vieux Samos, qui aimait ses anges des faubourgs, et qui devait être, pour l'esprit de Sornar, plus invisible qu'une fourmi particulière au milieu d'une fourmilière innombrable. La petite Daïla devait y arriver la première. Les enfants spiritualistes devraient s'y rendre à leur tour dans le cours de la journée, avec interdiction d'utiliser l'esprit de manière trop manifeste. Artus, enfin, les rejoindrait lorsque l'expédition, avec ses parents en tête, devrait partir. Les deux femmes espéraient par ce subterfuge détourner le danger sur leur propre tête, tout en continuant à protéger leur enfant. C'était tout ce que leur génie maternel avait pu trouver, et, en cette minute froide et solitaire qui précédait la séparation, Irène trouvait que c'était bien maigre. Personne ne savait où il se trouverait, en dehors d'elles deux. Même Keller, dont les résistances spirituelles étaient moindres, avait volontairement refusé d'être dans la confidence. Artus lui-même, Aélénor et Irène seraient tous les trois capables de fermer leur esprit. Le vieux Samos attendait, dans sa pauvre masure noircie par l'essuie, et elle n'eut besoin que de pénétrer dans sa demeure pour qu'il l'accueillît avec chaleur. « Par le saint Chafouin, tu n'es pas beaucoup plus âgé que les enfants !» s'exclama le vieil homme. « Je suis devenu, pourtant, » protesta Irène gravement. Samos, un peu surpris par cette réponse, changea de conversation et s'enquit des instructions relatives au bébé. Il montra à Irène tout ce qu'on lui avait déjà apporté, du lait, de la nourriture, ainsi que le berceau où la jeune femme coucha délicatement Daïla. Elle ne s'éveilla pas, mais la bonne chaleur qui régnait près de l'âtre la faisait sourire aux anges. « Je vais lui dire au revoir, » dit Irène à Samos. Le vieillard n'y voyait pas d'inconvénient, mais il mit quelques secondes à comprendre qu'il s'agissait d'une invitation à les laisser seuls. « Elle dort, » protesta-t-il. « Je ne la réveillerai pas. » Le vieux haussa les épaules et parut hésiter avant de sortir dans la rue. Il aurait pu également grimper à l'échelle pour regagner la mansarde, mais il préférait le froid aux gesticulations. Quand il fut dehors, il se mit à faire les 100 pas pour se réchauffer un peu, grognant à mi-voix contre lui-même parce qu'il n'avait pas emporté sa chape. Il entendait un marmottement mélodieux, comme une sorte de chanson lente et répétitive, et songea qu'on avait en Hauteville de drôles de façons de dire au revoir à un bébé endormi. Cela dura longtemps, à ce qu'il parut à ses vieilles articulations. Quand la jeune fille sortit, elle paraissait si triste, avec ses yeux rougis et sa grande bouche crispée, qu'il voulut la retenir. « Vous la reverrez, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. » Irène lui adressa un signe rapide et commença à s'éloigner. « Je m'occuperai bien d'elle. « Je sais, Samos, sois remercié pour l'aide que tu m'apportes en cet instant. » Puis, avec une détermination qui sembla au vieil homme peu commune pour une fille de cet âge, elle fit taire sa douleur et son visage reprit sa contenance grave et sérieuse. Elle ne pensa à rien sur le chemin du retour, qu'elle effectua plus lentement. Elle essayait de faire le vide en elle et d'abandonner peu à peu toute forme de personnalité. N'avait-elle pas fait le plus difficile en déposant son bébé dans cette bâtisse noirâtre et en lui chantant le chant des adieux? Elle était morte déjà en s'arrachant à elle. Elle avait réussi à faire ce geste, à tuer la mère en elle. Alors que restait-il? Rien qui vaille la peine dans sa petite personne. Elle venait de cesser d'être Irène, mère de Daïla. Elle n'était plus depuis longtemps Irène, compagne du sans-mémoire. Elle n'était plus non plus Irène, fille de Naïma. Elle était la dernière spiritualiste encore debout dans le temps. Elle était la proue de la nef des trépassés qui cherchait un rivage de paix pour livrer l'héritage. Elle était le dernier souffle que le passé exhalait dans l'avenir, le passage et la porte. Elle avait été l'héritière, la mère, la diseuse essentielle. Elle arrivait maintenant à la dernière étape de ses métamorphoses et accueillait sa nouvelle forme avec la joie austère de la soumission. Elle était la donneuse. Ses fidèles étaient déjà attroupés dans la cour de l'ancien hospice lorsqu'ils la virent arriver, lente et éclairée de l'intérieur, psalmodiant pour elle-même. Elle prit sa place sans quitter son état de transe, et ils se hâtèrent de la suivre, de former un cercle autour d'elle, et de projeter sur ses paroles de plus en plus audibles toute l'attention spirituelle dont ils étaient capables. Jamais elle ne s'était exprimée de cette façon inspirée. C'était comme si quelqu'un, ou même plusieurs personnes, parlaient à travers elle. Toutes les lignes écrites dans les pages brûlées ont été soufflées à mon oreille. Tous les mots, tous les savoirs, la sagesse immémoriale des miens s'est déversée comme un torrent et je déborde de moi-même. Pleine des enseignements et des missions sacrées, grosse de l'histoire et insensible au devenir, je suis le torrent qui déborde, je suis chaque pierre roulée dans le courant, chaque ligne écrite sur les pages calcinées et le courant lui-même. L'eau qui défait l'œuvre du feu. Assemblons nos consciences, que vos esprits ruissellent vers le torrent et le fassent déborder encore, que toutes les eaux convergent vers le fleuve et emportent dans leur crue les flammes des noirs sacrifices et le poison des assassinats. Que l'eau éteigne le feu et que l'eau dissolve le poison, que les eaux tumultueuses se frayent un chemin sur la terre ferme et même dans les cieux pour dévaler vers l'horizon. Que l'eau défasse l'œuvre du feu. Que l'esprit malade qui s'enivre de lui-même ose défier les eaux, qu'il tente d'opposer à notre multitude déferlante la flamme fragile de sa propre immortalité, qu'il mûrisse dans la nuit le dessèchement des mondes et qu'il soit submergé. Que la vague collective l'engloutisse s'il dissolve son nom, que ses chairs liquides se dispersent aux quatre courants, qu'il soit noyé. Tous les fidèles, regroupés autour d'Irène, sentaient au plus profond d'eux la puissance de son chant. Ils faisaient corps avec elle et vivaient une expérience plus intense que toutes celles qu'ils avaient connues jusqu'ici. Beaucoup d'entre eux fermaient les yeux et aucun ne s'aperçut tout de suite qu'Irène avait commencé à l'éviter. Ils sentaient, tous, la gravité de l'invocation qu'elle faisait, du défi qu'elle lançait, et, sans bien comprendre de quoi il s'agissait, ils lui offraient toutes leurs réserves spirituelles. La vieille Morga fut la seconde à entrer en lévitation, puis ce furent les autres, et bientôt tout leur groupe fut à plusieurs mètres du sol. L'esprit malade a embrassé la grandeur et a perdu la puissance. L'esprit malade a refusé la mort et la vie l'a déserté. Que les eaux vivantes l'absolvent et lui rendent la mort sans laquelle la vie n'est qu'une ombre. Que les eaux lumineuses qui ruissellent du ciel, des montagnes et des fleuves le rendent à la mer. Que l'esprit malade soit guéri, emporté par le courant de l'histoire et de la multitude. Que son destin égoïste ne flambe plus dans nos destins. Que sa flamme s'éteigne et que son corps mortel lui soit rendu. Depuis quelques instants, Irène sentait, au bord de leur cercle de conscience, la présence haïe qui rôdait. Une volonté de lui nuire, plus forte que tous ses sentiments personnels, affermit encore son verbe. « Que l'injonction de nos mille bouches te lie de mille nœuds de fer. Échoue dans ta quête maudite !» Une série d'événements se produisirent alors simultanément, sans que quiconque pût comprendre l'enchaînement des causes. Plusieurs personnes rouvrirent les yeux et tombèrent. Irène se mit à convulser quelques secondes avant de s'affaisser, et un craquement funèbre, gros comme un millier de tambours roulant sous terre, accompagna les premiers éboulements. L'ancien hospice s'effondrait comme un château de cartes. Des morceaux de balcons, des colonnes de plusieurs mètres s'écroulèrent sur les fidèles, tandis que les poutres, soudainement portées à l'incandescence, s'enflammaient dans des sifflements stridents. Un nuage de poussière et d'épaisse fumée recouvrit le groupe disloqué. Puis, dans des gémissements et des bruits de toux, certains se relevèrent, endoloris, blessés. Les autres, gisants, ne demandaient plus d'aide. Parmi eux, la jeune Irène, les yeux ouverts sur l'invisible, la tête largement ouverte par un bloc d'albâtre, répandait un fleuve de sang auquel venait se mêler, en filet rouge, le sang de ses fidèles.